toi, Choupi, c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end en votre compagnie.
Putain, nous sommes pas, le...
Ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Voilà.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation de la part du gouvernement ?
Fausses offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini, le maillot,
c'est
maillot
connerie, cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins, là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais. Tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil. Une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Canu Info. Ce soir, nous allons vous parler d'un tas de choses. Nous allons commencer par un coup de téléphone pour discuter avec une mère d'élève qui a été sur l'occupation à Vaux-en-Velin de l'école de Grand Clément qui est occupée contre le fait que des enfants sont à la rue.
Et puis on restera à Vaux-en-Velin et on vous fera entendre un reportage qui a été tourné devant le lycée Doineau en début de semaine.
Ensuite, on vous fera un retour sur la loi Or et Parcoursup.
Puis, on vous passera un reportage sur le blocage du lycée Alfred de Musset.
On enchaînera avec un petit appel téléphonique où on parlera des violences faites aux travailleuses du sexe. Il y a bientôt un rassemblement devant l'hôtel de ville. Ça sera le 17 décembre.
Et ensuite, gros dossier sur les gilets jaunes, avec d'abord un reportage sur la manif de Paris le samedi 8 décembre.
Et ensuite, ce sera un autre reportage qui, ce coup-ci, vous montrera comment ça se passe un petit peu à Fezin.
Et puis on enchaînera rapidement sur une petite brève au sujet des 3 plus 4 de Briançon, ça fait 7, et qui ont été condamnés hier.
Et ensuite, on verra comment l'avortement a été légalisé en Irlande. Youhou !
Bonne écoute sur Radio Canu.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulay.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est de la lutte des instits à Vaux-en-Velin.
Ce reportage sur la grève qu'on a dit à les interjouer pendant la mission rassemblement pour le droit à l'Opéra de Lyon. Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Alors, rubrique locale, et on va être dans quelques instants, normalement, si tout marche bien, à Vaux-en-Velin, à l'école primaire Grand Clément, où des parents d'élèves, des professionnels se mobilisent en soutien aux familles à la rue. Si ma mémoire est bonne, il y a eu une occupation de l'école hier soir, et donc on va essayer de prendre un peu plus d'informations. Est-ce que ça marche de notre
côté ? Et alors oui, le téléphone sonne.
Le téléphone sonne.
Ça ferait un bon nom d'émission, tu vois, si tu as trop l'idée. Ouais.
Allô ?
Allô, allô ? Est-ce que tu nous entends ? Ça lague un peu. Là, tu nous entends ? Ah, là, c'est bon. Je crois que c'est bon. Tu nous entends ?
Oui.
Génial. Alors, tu es parent d'élève à l'école Grand Clément de Vaux, c'est ce qu'on était en train de dire à l'antenne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui se passe depuis quelques semaines, voire quelques jours, en soutien à des familles?
Oui, alors tout à fait. Alors, à Vaux-en-Velin, comme chaque année, mais cette année, c'est quand même un peu particulier, il y a une mobilisation au niveau des écoles. Donc chaque année, il y a des enfants qui se retrouvent sans toit, avec leur famille et leurs frères et sœurs, qui sont élèves dans les écoles. Et donc il y a une mobilisation au sein des écoles, des professeurs, des parents d'élèves et des habitants de chaque quartier qui se mobilisent un peu pour essayer de leur trouver des logements et revendiquer un peu auprès de la mairie et de la préfecture des logements.
Alors cette année, il y a combien d'écoles qui sont concernées et combien de familles également à l'échelle de la commune de Vaux?
Alors le nombre d'écoles concernées, il me semble que c'est quand même presque 10, j'ai pas le chiffre en tête. C'est 47 enfants à Vaux-en-Velin, donc 31 élèves scolarisés, donc avec tous les frères et sœurs, ça fait 47. Donc en comptant les parents, ça fait bien une 70-71 personnes.
D'accord. Et alors, vous êtes mobilisé pour trouver un toit à ces enfants et à ces familles depuis quand, à l'échelle de votre école en tout cas?
À l'échelle de notre école, ça fait maintenant 4 ans quand même, parce que chaque année, c'est un cas de figure qu'on rencontre.
Et alors, depuis 4 ans que vous vous mobilisez, est-ce que tu as l'impression que vous avez gagné un petit peu en coordination? Est-ce que vous vous en sortez mieux? Ou est-ce que c'est toujours un truc de galère du dernier moment?
Non, on commence à quand même plutôt bien s'en sortir. Déjà, on se connaît assez bien avec les membres de l'école et avec les parents d'élèves. On organise aussi, au sein de mon école, un Grand Clément. Un goûter solidaire chaque mois. Donc, les fonds qu'on récolte servent soit à payer des nuits d'hôtel, soit des nuits d'hôtel, permettre aux gens de ne pas dormir dehors, de rencontrer un peu des gens qui hébergent les familles, donc hébergement un peu local. Et aussi cette année, c'est un peu particulier parce qu'on a réussi à bien se rencontrer entre les écoles. Donc on se voit un peu depuis presque un mois entre toutes les écoles de Vaux-en-Velin pour décider des occupations à faire ou des rassemblements.
Et alors là, justement, depuis quelques jours, est-ce que vous avez été obligé d'occuper des lieux pour loger des familles ou est-ce que vous fonctionnez par le logement à l'hôtel et en vous débrouillant entre soutiens?
Alors non, là on a occupé... la semaine dernière, donc le lundi 3 décembre, on a occupé à 8 établissements à Vaux-en-Velin. Donc il y avait 6 écoles, un collège et un lycée en simultané le soir. Et là, il y a encore des écoles qu'occupent. Hein. Grand Clément a occupé encore hier soir et Vallon, l'école Vallon.
Et donc ça veut dire, c'est signe du fait que vous ne réussissez pas à récolter assez de fonds pour payer des nuits d'hôtel?
Attendez, j'entends plus très bien, ça coupe.
Est-ce que tu m'entends là?
Ouais.
Est-ce que le fait de devoir occuper, c'est parce que vous avez du mal à avoir assez de fonds pour payer des nuits d'hôtel ou trouver d'autres moyens?
Alors oui, c'est une manière aussi de mettre à l'abri les gens, parce que dans l'école Grand Clément, par exemple, il y a 7 familles dehors, donc ça concerne 25 personnes, donc c'est un peu dur de payer autant de nuits d'hôtel. Et puis c'est aussi une manière d'embêter un peu la mairie pour qu'ils nous entendent un petit peu, quoi. C'est une façon d'occuper les locaux pour leur demander de réquisitionner des logements vides, parce que il y a des logements vides dans toutes les écoles, rien qu'à Grand Clément, il y en a 3.
Et alors justement, peut-être pour terminer, et puis je te laisserai dire d'autres trucs si tu as d'autres trucs à porter, comment réagit la mairie là cette année, et est-ce que toi tu vois des différences année après année dans sa manière de gérer ces questions-là et de réagir face à vos mobilisations?
Non, alors la mairie à Vaux-en-Velin, c'est quand même vraiment particulier, on n'a vraiment rien à faire, donc il y a très peu de retours. L'année dernière, il y a 2 ans, quand on a occupé presque 2 mois, elle a vraiment essayé d'empêcher ça en mettant des codes nominatifs à chaque professeur pour voir qui c'est qui se mobilisait dans les écoles, pour pouvoir ensuite les transmettre au rectorat. Du coup, ça fait que les professeurs maintenant ont un peu peur de se mobiliser de perdre leur emploi.
Ça, tu veux dire, c'est à la porte d'entrée de l'école, en fait, ils tapaient un code chacun et chacun.
Voilà, pour enclencher l'alarme le soir quand on va se coucher, il faut mettre un code pour que l'alarme ne sonne ou ne sonne pas. Et voilà, la mairie a donné des codes nominatifs à chaque professeur dans l'école Grand Clément.
Et depuis cette année, du coup, que vous avez commencé à vous mobiliser autour des mêmes questions, est-ce que vous avez eu des échanges avec cette mairie ou pas encore?
Alors oui, hein, il y a une réunion la semaine dernière, hein, le même soir de l'occupation, et la mairie ne veut pas s'occuper de ces personnes. Elle estime que Vaux-en-Velin fait assez et que ces personnes sont sans papier, donc illégales, donc ils ne méritent pas vraiment le droit d'être en France.
Ok, très bien. Alors, dernière question. Comment on peut vous aider pour la suite, s'il y a lieu de vous aider? Je pense que oui.
Oui, je pense qu'on met un peu des nouvelles sur le site Rebellion quand on organise des rassemblements ou des goûters, c'est de venir et de pouvoir nous soutenir. Sinon, on a un site Eloasso, on peut recevoir des dons aussi qui peuvent nous aider à participer à héberger les familles dans l'urgence. Voilà. Eloasso, et c'est Enfants Solidarité.
D'accord, très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses dont on n'aurait pas parlé et qui seraient importantes à dire,
je pense que ce qu'on peut dire, c'est que même, c'est quand même une organisation pour, de l'État pour pouvoir virer les gens en ce moment et leur rendre le parcours en France très difficile. Parce qu'avant, quand ils attendaient le plan Grand Froid, ils pouvaient rentrer dans une prise en charge dans l'hébergement d'urgence. Et ensuite, ils étaient rarement remis à la rue au printemps. Et du coup, même une personne sans papier avant pouvait avoir accès à un logement d'une certaine manière pas trop difficile. Enfin, ce qui était quand même difficile, mais quand même, c'était possible. Là, c'est de plus en plus impossible. Enfin, par exemple, à Vaux-en-Velin, c'est impossible. À Lyon, c'est encore différent. Je pense que c'est une vitrine, mais à Vaux-en-Velin, c'est très difficile.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonne soirée à vous. Et puis, on continue de suivre ces luttes qui vous occupent, qui nous occupent, et en parler à l'antenne.
Très gentil, merci. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir. On reste sur le 102.2, il est 19h13 et on reste à Vaux-en-Velin où lundi des lycéennes et des lycéens étaient occupés à bloquer leur lycée. C'est le lycée Doineau, un micro y a traîné, on vous laisse écouter.
Depuis lundi, on est ici, donc on est devant le lycée, on est mobilisé, on a des pancartes. Le lycée Robert Doineau à Vaux-en-Velin. Le lycée n'est pas vraiment bloqué, parce qu'il y a toujours des entrées, mais la majorité des élèves ne rentre pas, n'est pas rentrée durant la semaine. Tous les matins déjà, il y a la nationale, des fois la municipale. Et souvent, on a essuyé des cires de lacrymogènes. Mardi, mercredi, jeudi, ça a débordé dans tout le centre-ville. C'est-à-dire qu'il y a des cassures sur des voitures, des tirs de flashball un peu partout.
Vendredi 17 décembre à Vaux-en-Velin. Depuis une semaine, les lycées sont entrés dans la danse. À la protestation, les gilets jaunes s'ajoutent blocage d'établissements et manifestations sauvages sur fond de revendications propres, mais encore de même Macron, même combat. Police et gendarmerie jusque-là contraints à une relative prudence au contact des gilets jaunes lâchent la bride sur les lycéens. La veille, nous sont parvenues les images de Mantes-la-Jolie, où 151 jeunes sont séquestrés et humiliés par les forces de l'ordre.
Voilà, ce matin, on est ici, on est mobilisés. Je pense que la majorité des élèves, avec quelques professeurs, en gros des encadrants, qui vont se déplacer jusqu'à Jean-Marseille. Il y a une manifestation qui débute à 9h30 jusqu'à la place Guichard. On va sûrement passer par le rectorat.
Depuis vendredi, les élèves ont pris l'initiative de bloquer le lycée sur des revendications qui sont les nôtres, enseignants, c'est-à-dire contre la réforme des lycées, contre Parcoursup, essentiellement. On a été un certain nombre d'enseignants à directement être avec eux dehors, tous les jours. Voilà, on essaye d'être présent toujours, avec toutes les limites que ça peut avoir. On n'est pas organisateur, c'est un mouvement lycéen à part entière.
Beaucoup d'arrestations, au moins 5-6 par jour. À chaque fois, c'est 10h ici au commissariat. Il est transféré à mes yeux le soir. Le lendemain, ils sont jugés. Sauf hier, ils sont tous passés en comparution immédiate.
Après,
on était tous devant le lycée, mais très éparpillés. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des gens là-bas, des gens ici à gauche du lycée, à droite, au milieu. Et vraiment pacifistes, sans aucun pétard. Il y avait des policiers là-bas postés au feu, ici en face, et de là-bas ils tiraient les lacrymogènes, ils nous faisaient décaler. Oui, ils nous chargeaient, mais sans raison apparente.
Même la dernière fois, on avait mis de la musique et tout, on était là, on avait, dans notre lycée, on a des Sarkissiens.
Dans le lycée.
Il y en a un qui a fait un salto, ils ont commencé à jeter des lacrymos par terre. On s'est tous réfugiés là.
Dans le lycée, ouais.
Du coup, ils ont jeté des lacrymos dans le lycée.
Ouais, c'est vrai que dans l'enceinte,
on
était dans un parking, il y avait beaucoup de voitures, et ils tiraient en tir tendu, on courait et on tirait dessus en face.
La réponse policière est disproportionnée. C'est censé être des représentants des forces de l'ordre en face de jeunes en construction et ils se comportent vraiment d'une manière inepte. On n'insulte pas des jeunes, même si on se fait insulter, on est dans une position d'adulte. On n'insulte pas des profs non plus, parce qu'il y a des profs qui ont été insultés. Il y a des élèves qui ont été mis en joue avec des flashballs. Et des profs aussi. Et voilà, moi mercredi, il y a un gamin qui m'a tiré par le bras. Il y avait une charge de police, j'ai pas couru, je ne voulais pas courir. Et il y a un gamin qui est arrivé derrière moi, qui m'a attrapé par le bras pour me dire « Madame, faut courir !» Et il y a une balle de flashball qui est tombée à 2 cm. Je pense que cette présence policière-là, mercredi en tout cas, et sur tous les autres jours, a contribué à renforcer cette espèce de sentiment d'injustice. Elle répond complètement à une logique gouvernementale de répression de toute contestation. Dans les mêmes revendications, je pense qu'il y a quelque chose ici qui est en rapport avec les gilets jaunes, je pense que la majorité de nos élèves expérimentent d'être de classe populaire et de voir les parents baver en fin de mois, de toucher de très près la question du chômage et de la précarité. Et en ça, je pense que les gilets jaunes, évidemment, ça fait écho. La deuxième chose qui fait écho, c'est le ras-le-bol de cette gouvernance par le fric, quoi. Ben, les élèves, ils ont aussi beaucoup en arrière-fond Macron.
Un quart d'heure plus tard, pensant profiter de l'effet de sidération produit par l'interpellation musclée et aveugle d'au moins deux jeunes, Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin et ex-membre du feu gouvernement Hollande, notoirement connu pour son absence absolue de toute solidarité élémentaire, entend descendre de son hôtel de ville à la rencontre des lycéens. Accompagnée de quelques bolos prétendument médiateurs sociaux, elle compte, après le ratissage méticuleusement quotidien des flics, jouer l'apaisement.
Il y a des vieilles toute la journée.
Mais moi je regarde. Est-ce que je vous propose que vous puissiez du coup venir me rencontrer au nombre que vous souhaitez tranquillement. Bah, vous n'êtes pas obligé, vous réfléchissez et vous repassez au service tranquillement. Mais vous me laissez réfléchir, vous embêtez plus.
Je vous dis, depuis vendredi il y a blocus. Donc ça fait une semaine en tout et pour tout. Il y a un seul policier sur je sais pas combien de voitures qu'on a envoyées qui a été gentil avec nous et on l'a vu hier. Toute la semaine, c'était matraque, flashball, gaz, grenade de dispersion. C'est insupportable. Le temps qu'on se voit, et même si on se voit, vous croyez que c'est une incendie? On en parle. Moi, je vais commencer.
On va parler, il y en a moins 4-5 qui sont plus attrapés.
Bonjour, je m'appelle Charlie. Il y a un blocus depuis vendredi dernier. Nous en avons marre parce que la police nous matraque, ils nous gâchent sur les flashballs.
Et à chaque fois qu'on est dans le lycée pour faire un blocus, pour qu'on se manifeste contre Macron, ils sont là et on n'a pas le droit de se défendre en cellule. Ils nous mettent, ils nous matraquent comme je sais pas quoi. Ils se demandent pourquoi on est violent avec eux. Moi maintenant, les decks, on en a marre. Ils ont voulu la guerre et la guerre elle est déclarée. Ils vont voir ce qu'on va leur faire.
Ils n'ont pas vu ce qu'ils ont fait avant. Ça. On n'a pas peur d'eux.
Le prochain, c'est
Prends.
c'est Robert Doisneau. La réforme du lycée aura pour conséquence la réduction de l'offre des spécialités dans le lycée, la généralisation des cours à 35 élèves par classe en première et terminale, et la réduction des dédoublements et des séances de renforcement disciplinaire. La conséquence est prévisible, le creusement des inégalités sociales et la mise en péril de la réussite de ces élèves. Cette semaine, le fonctionnement des lycées est encore perturbé par les lycéens et les lycéennes qui se mobilisent contre Parcoursup et la réforme du lycée et du baccalauréat. De nombreux enseignants soutiennent aussi cette lutte. Certains lycéens rejoignent les revendications des Gilets jaunes, car il est aussi question de précarisation d'une certaine partie de la société. Les syndicats lycéens s'attachent au principe du « même Macron, même combat ». Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces réformes ? Dans les grandes lignes, la réforme des lycées, ça va faire exploser les cadres nationaux et mettre en concurrence les lycées dans la perspective de la sélection dans l'enseignement supérieur. C'est notamment la mise en place du contrôle continu pour le bac qui va créer ce fossé entre les différents établissements. De plus, les filières telles qu'elles existent vont aussi disparaître. Le baccalauréat serait à la carte selon les lycées, qui ne pourront pas tous offrir les mêmes enseignements, et ce qui accroîtra ainsi les inégalités entre les établissements. La réforme s'accompagne aussi d'une importante réduction de moyens et de postes dans les établissements généraux, technologiques et professionnels. Suppression de 2600 postes en lycée prévus pour la mi-2019. Les lycéens s'opposent aussi à la réforme de la voie professionnelle qui privilégie les intérêts privés de l'entrepreneuriat plutôt que les intérêts des lycéens et lycéennes et qui offrera des formations différenciées d'une région à une autre. Cette réforme, enfin, c'est la sélection à l'université et à l'aide des algorithmes de Parcoursup qui discriminent selon les lycées d'où on vient ou le bac que l'on a fait et ce qu'on a fait l'année dernière. Et que beaucoup de jeunes se sont retrouvés, que beaucoup de jeunes se sont retrouvés sans formation ou dans une formation qui ne leur correspond pas du tout. Ainsi, les lycéens et les lycéennes se mobilisent un peu partout, notamment la semaine dernière au lycée Alfred de Musset. On les écoute. Canut Info du vendredi. Reportage.
On est arrivé tranquillement ce matin, on a vu qu'il y avait la police, ils étaient bien armés. Ils n'étaient pas armés comme une police qui vient normale. Ils étaient armés comme une police, ils étaient prêts pour l'attre. Voilà, ils voulaient en découdre, ils étaient prêts à l'affrontement. Ils sont venus à l'affrontement. Bon, il n'y a pas eu de gros dégâts. Ça s'est passé plutôt calmement. Ensuite, par la suite, c'est passé quoi ? C'est qu'il y a eu un clan des jeunes élèves qui s'est mis en place et ensuite un autre clan de la police. Bon, à partir d'un moment, il y a des coups de sifflet qui ont retenti, les routes ont été bloquées pour pas que les bus et les voitures y passent. Suite à ça, il s'est passé que la police a voulu réagir au plus vite. Ils ont voulu réagir au plus vite et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à charger les élèves qui, au passage, ont en profité pour bloquer avec des poubelles brûlées et brûler deux, trois petits trucs sur le terrain. Et ensuite, ils les ont chargés, ce qui fait que la police a réussi à faire reculer les élèves qui se sont retranchés dans un chantier. Ils ont pu se retrancher dans un chantier. Malheureusement, la police en a récupéré un de nos confrères. On pense fortement à lui, qui s'est fait attraper par la police.
Et là, il s'est fait embarquer
D'après les nouvelles, c'est ce qu'on a. On n'a pas plus de nouvelles pour l'instant. Ils sont une bonne patrouille. Hein. Ah ouais, il y a la police municipale, ils ont ramené une équipe de voitures de la BAC. Et ensuite, en tout cas, ils sont très lourdement armés quand même. Ah ouais. Armés de casques, de matraques, là, de flashballs ou je ne sais quoi. J'ai entendu un coup à un moment, j'ai eu assez peur, moi.
Alors là, ce qu'on entend, c'est les CRS qui tapent sur leurs boucliers en avançant sur les lycéens.
C'est pas pour la réforme de la Parcoursup, là. Je sais pas. C'est quoi Parcoursup ?
C'est les études supérieures à l'université. Est-ce que c'est sur... tu vas aller à l'université ? Est-ce que tu seras tirage au sort ? Je te jure.
Macron démission.
Il nique les bourses pour les enquêtes qui ont déjà pas beaucoup de thunes. Il nique les lycées avec les réformes. Le bac, c'est un contrôle continu, ils font n'importe quoi. C'est que maintenant, ce sera tout le monde dans la même filière et c'est au fur et à mesure du temps qu'ils vont décider où ils nous envoient. Ce ne sera plus nous qui avons choisi.
Macron, on t'aime pas, on ne sert à rien.
Yeah!
Et on suivra ces prochains jours, ces prochaines semaines, le mouvement lycéen. Sans transition aucune, on a au bout du fil des membres de l'association Kabiria.
Allô, ils sont déjà là ?
Oui.
Oui, bonjour et bienvenue sur ce Canu Info. Merci beaucoup du coup de répondre à cet appel pour nous donner quelques éléments. Quelques éléments sur quoi ? Eh bien sur le rassemblement qui va avoir lieu lundi contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe. Donc ce sera à Hôtel de Ville lundi à 17h. Donc déjà, oui, vous faites partie de Kabiria. Est-ce que c'est possible de nous dire un petit mot sur cette association, sur ce qu'elle fait, comment elle fonctionne?
Oui. Alors, donc Kabiria, à la base, c'est une asso de santé communautaire avec les personnes prostituées, qui est en fait aussi une asso de lutte contre le sida, qui existe à Lyon depuis 93-95. C'est cette époque-là qu'elle est apparue. Et elle a apparu donc dans un contexte d'épidémie de sida, et à un moment, voilà, il n'y avait pas de réponse apportée en termes de prévention à l'épidémie auprès des travailleuses du sexe et puis des usagers de drogue également. Donc Kabiria a commencé ses activités dans ce contexte-là. Et alors voilà un peu les origines. Comment on fonctionne? Eh bien, en fait, on est une asso de terrain, de prévention de santé publique, même de première ligne, et on exerce le jour et la nuit. Alors la nuit, par exemple, on a un camping-car aménagé en salle d'accueil un peu conviviale, et puis on va sur les lieux de prostitution à la rencontre des personnes, on assure la prévention, on distribue aussi du matériel, bien évidemment, des préservatifs, des informations. C'est aussi l'occasion de créer un lien et après de proposer aux personnes des aides un peu plus poussées, quoi, en termes d'accès aux droits, notamment à la santé, à la couverture médicale ou à la demande d'asile pour les personnes migrantes qui peuvent faire une demande d'asile. On répond en fait aux demandes des personnes selon leurs besoins. Voilà, pour faire rapide.
D'accord. Et du coup, vous allez participer à cette journée du 17 décembre, lundi ?
Oui, voilà. Donc, le 17 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe. C'est une journée de mobilisation internationale, puisque c'est un mouvement qui a été lancé au début des années 2000, je crois, à New York, suite au décès de plusieurs travailleurs et travailleuses du sexe les années précédentes et l'année même, en fait. Et c'est voilà une journée de mobilisation pour protester contre les violences qui leur sont faites au niveau des agressions, mais pas que, au niveau aussi des violences institutionnelles qu'elles peuvent subir de la part du politique en général, quoi, un peu partout dans le monde.
Et du coup, ces violences, ces agressions, est-ce que, du coup, vous disiez que vous êtes une asso de terrain, est-ce que justement sur le terrain, vous avez vu les conséquences de la loi de 2016 sur la pénalisation des clients, donc loi qu'on avait appelée, qu'on avait justifiée en disant que c'était une lutte contre le système prostitutionnel, du coup, est-ce que vous avez vu des conséquences directes de cette loi ?
Alors, hélas, oui. On voit les conséquences de cette loi qui malheureusement s'appuie aussi sur un désastre précédent qui était la loi de pénalisation du racolage en 2003, dite loi Sarkozy en fait. Mm-hmm. Donc voilà, il y a déjà eu une mauvaise couche qui a été appliquée, on va dire, un peu sur la question. Et là, on remet une deuxième couche en fait. C'est absolument désastreux en termes de santé publique. Depuis la loi sur le racolage et maintenant avec cette loi sur la pénalisation des clients, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça perturbe complètement l'exercice de l'activité. Et ce qui est vraiment très important dans le cadre de cette activité, c'est que les travailleurs ou les travailleuses soient en position de force, notamment pour assurer la prévention, parce que ce sont les premiers animateurs, animatrices de prévention, qui doivent imposer le port du préservatif aux clients, en fait. Si vous voulez, dans un cadre rendu compliqué, en fait, par ces lois, eh bien, les travailleurs et travailleuses sont plus en position de force. Donc là, c'est un vrai problème de santé publique, en fait. Et depuis la loi sur le racolage, donc hein, j'insiste, hein, moi, ça a vraiment commencé là, puis bon, effectivement, ça se poursuit. C'est de plus en plus difficile pour les personnes d'imposer le port du préservatif. Donc le client, en fait, s'en sort presque renforcé. Marchande aussi les prix. Puis il y a des vrais faux clients. Il y a carrément des gens qui viennent les agresser, en fait, violemment. On a vraiment eu cette année plusieurs situations de femmes migrantes, notamment, qui avaient été très violemment agressées. Donc, c'est désastreux. Voilà.
Et s'il y a des personnes justement en difficulté qui souhaitent avoir de l'aide là dans la région, sur Lyon, comment est-ce qu'on peut contacter Kabiria?
Alors on a un site internet avec nos coordonnées, donc c'est assez simple. Sinon, nous dans le cadre des tournées qu'on fait le jour et la nuit, parce qu'on fait aussi le jour, hein, on va même jusqu'à 80 km autour de Lyon, pour rencontrer les personnes, et on communique nos coordonnées aussi de cette manière, et on se fait connaître de cette manière. Et sinon, voilà, avec notre site internet, c'est quand même assez pratique.
D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, en tout cas, du coup, on attend des personnes nombreuses et nombreux, du coup, pour ce rassemblement à 17h devant l'hôtel de ville, donc place des Terreaux. Et puis, il y a une conférence de presse avant qui est organisée à 15h30 au centre LGBTI, pardon, qui est rue des Capucins.
Voilà,
est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose tant que vous avez la parole?
Eh bien, oui, ce que je peux dire là, c'est que toutes les personnes qui trouvent donc le traitement qui est fait au travers du sexe en France et qui trouvent ça scandaleux, ben de se joindre à nous et de venir se rassembler devant l'hôtel de ville lundi, et éventuellement même de venir, je sais pas si on peut assister à la conférence de presse, je sais pas, mais en tout cas, voilà, de venir nous soutenir, en fait, de venir soutenir les travailleurs et les travailleuses, voilà.
Très bien. Eh ben,
on compte sur vous.
Merci beaucoup du coup d'avoir fait passer ce message dans ce Canu Info. Et puis peut-être à une prochaine fois pour des nouvelles de ce que vous faites dans l'asso et puis de ces rassemblements pour la défense du droit des travailleuses du sexe. Merci et bonne fin de journée.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Ce que je veux,
Canu Info.
Partout. Vive la République! Vive la France!
Mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera quand votre règne finira.
Rien et personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les...
Rue de Berry, boulevard Haussmann, quartier très huppé, à deux pas de l'étoile. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. C'est une manif sauvage, là, je pense. Et je vois une énorme foule arriver de l'autre côté du boulevard Haussmann. Les gilets jaunes lambda, prolo. Il y a quelques drapeaux français qui flottent au vent.
Samedi 8 décembre, gilets jaunes, acte 4, la périphérie dans Paris.
Moi j'habite Venard-et-les-Laumes, c'est en Côte d'Or, pas loin de Dijon en fait.
On n'est pas du tout en campagne contre Paris. On est venu là, c'est juste pour montrer les inégalités qu'il y a en France, c'est tout. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui se gavent plus que d'autres, quoi. Et moi je viens pas pour manifester pour gagner 20 euros par mois en plus, c'est pas ça le truc. Moi 20 euros ça ne sert à rien du tout. Tu sais, j'ai deux enfants et tout. Voilà, je gagnais 1300 euros. Et je m'en sortais pas, tu vois, et pourtant moi j'habite pas du tout Paris, et voilà, le système dans lequel on vit, il va pas du tout, quoi.
On vient de se faire allègrement gazer. Ça tombe de partout.
C'est la première fois que je vais manifester de ma vie. D'accord. Je découvre Paris. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est le fait qu'on nous assigne à résidence. On nous dit en gros, sortez pas, n'allez pas manifester. Moi, ça, je te dis pas ça, ça me rend complètement dingue. On nous incite à venir, moi, je veux dire, c'est une invitation qu'on nous a donnée.
On veut juste vivre correctement. On veut rien d'autre. On veut juste la correction. Avoir le minimum syndical. Pouvoir partir en vacances. On demande rien de plus. On demande rien de plus.
Ils ont plein de privilèges et nous, on n'a rien.
Regardez, ça vient de toute la France. On n'est pas les seuls concernés. C'est une majorité. On est des pères de famille. Le mec que tu vois là, il travaille chez Dassault Aviation. Je travaille dans les hippodromes pour ce fils de chien de Rothschild. J'ai travaillé pour lui, j'ai arrêté. Maintenant, je suis chauffeur de car. Mais malgré ça, c'est pareil. C'est pareil. C'est pour nos enfants qu'on fait ça. Moi, c'est pas pour moi personnellement. Moi, ils m'ont niqué. Ils ont niqué mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. C'est pour mes enfants que je fais ça.
Alors là, on est plongé dans un espèce de gris de feu. On voit plus rien. On a les poumons qui brûlent. Il y a un franc-prix, les mecs arrachent carrément les panneaux, les mecs arrachent carrément les panneaux du franc-prix. Tout ça dans une espèce de lumière dantesque entre des flammes et la fumée des cendres.
Il a d'abord fait des cadeaux aux riches, maintenant tout le monde le sait. Il faut qu'ils mettent la barre à gauche.
C'est un mouvement qui concerne la classe moyenne aussi, parce que nous aussi, on se rend compte qu'on galère, quoi.
Et je trouve pas ça normal d'avoir fait des études, de travailler tous les jours, de me lever tous les matins et d'être en galère tout le temps. Voilà.
Regarde cette mixité que tu vois autour de toi. Regarde cette mobilisation. Ça fait plaisir, non?
Vous faites quoi?
On fait quoi? On est là pour manifester et comme infirmière, étudiante infirmière, on a décidé de s'occuper des gens, de faire ce qu'on peut pour être utile. Ouais.
Et vous l'aviez déjà fait dans les manifs?
Non. Non, c'est la première fois qu'on fait.
Vous êtes parisienne?
Non.
Vous êtes d'où?
De banlieue.
Et vous avez aidé pas mal de gens là?
Ouais, pas mal qui s'étaient fait gazer, ouais. Qui respiraient plus, qui ne voyaient plus, on les a aidés comme on pouvait. On a ce qu'il faut pour les blessures et tout, mais bon, moi ça n'arrive pas, donc tant mieux.
Et ça, c'est le bruit permanent des pavés sur les vitrines. Alors là, si vous voulez des sacs à main, c'est maintenant. Des chaussures. Des chaussures, sacs à main. C'est Noël.
On est là, il y a du monde et puis faut se bouger, faut pas avoir peur justement. C'est ce qu'ils essayent de faire, de nous faire peur. Après voilà, c'est clair, ça fait flipper, mais on est tous ensemble, on est unis donc.
Et vous pensez que le mouvement il demande quoi? Qu'est-ce que vous demandez un peu?
On demande tout, enfin, en fait c'est un trop-plein. On demande tout, qu'on arrête un peu de suivre notre gueule et qu'on pense un peu au peuple et arrêter d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres quoi.
Et ben la France elle nous baise, et ben maintenant. On baisse le gouvernement, c'est tout. C'est ça. Et ça continuera tous les samedis, même bientôt tous les lundis, mardis. Soyez au rendez-vous 20h50 sur TF1.
Rendez-vous donc sur TF1, BFM TV ou France Info pour s'adonner à un peu de Riot Porn. Tu sais, c'est ce petit passe-temps crapuleux consistant en période de mouvement social offensif à ingurgiter abondamment du spectacle insurrectionnel. C'est ce que j'ai fait ces dernières semaines depuis que le mouvement des Gilets jaunes s'est transformé en soulèvement populaire d'une ampleur conséquente. Mais derrière les images spectaculaires qui font elles aussi grimper les parts d'audience, les patrons des chaînes télé, radio et les plumitifs qui bossent pour eux, ceux qu'on a coutume d'appeler les chiens de garde, ont resserré les rangs. Face à ce qui se transformait en une défiance généralisée du pouvoir et de ses élites, médias compris, les chiens de garde ont adopté une double stratégie. D'abord diffuser abondamment les images de casses, de barricades et de voitures en feu, images qui ont le mérite de faire de l'audience et de diviser le mouvement, quoiqu'en la matière, l'opération était plus complexe qu'à l'habitude. Et ils ont également choisi de marteler un discours se voulant responsable face à cette défiance radicale, discours tenu par les éditorialistes de ces chaînes qui ne cessaient de souligner les contradictions des revendications, le manque d'interlocuteurs crédibles, bref, de regretter qu'on ne puisse pas traiter les Gilets jaunes comme des syndicalistes. Sur ces chaînes d'information, on a aussi beaucoup parlé des Gilets jaunes radicalisés et des Gilets jaunes modérés. Cette opération consistant à séparer les bons et les mauvais du gilet s'est accompagnée d'une tentative d'invalidation des revendications égalitaires ou à minima de justice sociale que l'on retrouve sur à peu près tous les ronds-points. On n'entendait pas vraiment les plus pauvres, nous disait-on. les et on entendait aussi pas assez les prolétaires. Ces gilets jaunes finalement étaient un peu trop classe moyenne. Et puis regardez tous ces ultra-droites et ces membres de l'ultra-gauche qui foncent d'un même pas derrière les gilets fluo. C'est bien la preuve que ça pue l'anarchie ou le fascisme. Et comme souvent, c'est Bernard-Henri Lévy, grand philosophe et homme qui parle à l'oreille des présidents, qui résume le mieux la position que se doivent de tenir les Français responsables. Je le cite donc, « Que Macron parle ou pas, que l'on soit d'accord avec lui ou non, qu'on soit pour ses réformes ou contre, n'a à cet instant aucune importance face à la montée en puissance des fachos, des factieux et des ennemis de la République. Une seule option digne, soutien au président Macron. » Et tout à l'heure encore, j'écoutais le journal de France Inter. On pouvait y entendre des analystes politiques, des gilets jaunes également, ceux à qui en tout cas on voulait bien tendre le micro, des politiques, des chroniqueurs, savamment triés pour leur docilité. Et à chaque fois, un seul et même discours était tenu sur les ondes, manifesté à nouveau demain 15 décembre, et contraire à toute morale. Oui, ben oui, on a fatigué... depuis plusieurs semaines, nos sympathiques forces de police, qui ont plus cette semaine, en plus des relous en fluo, ont dû faire face à une attaque terroriste à Strasbourg. Donc un message limpide, ne pas manifester demain, restez chez vous ou allez faire vos courses. Et ainsi l'auditeur du journal de France Inter terminait ce joyeux journal par l'audition d'un sympathique reportage de 4 minutes sur la réouverture du marché de Noël strasbourgeois. Sur BFM, on entendait un gilet jaune au micro et il disait « Je voudrais saluer mon ami qui est en train de perdre un œil après avoir pris un flashball en pleine tête. » Bruce Toussaint, sympathique journaliste de BFM, lui répondait « Et justement, ça ne vous incite pas à ne pas recommencer ?» Alors, demain, à Paris, comme ailleurs, le dispositif policier, puisqu'il s'agit également avec ce mouvement de parler de ces violences policières, ce dispositif policier sera là encore, comme le week-end dernier, très 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 gros. Il faut donc s'attendre à des arrestations préventives, à un déferlement de violence face à celles et ceux qui voudront continuer à manifester. Depuis le début du mouvement, c'est Bastamag qui a recensé tout ceci. Depuis le début du mouvement, donc il y a un mois, plus de 3000 personnes ont été arrêtées, plus de 20 ont écopé de prison ferme. À ceci s'ajoutent plus de 1000 blessés, parmi lesquels on trouve un nombre tous les jours plus grand de personnes défigurées par des tirs de flashball ou qui ont perdu une main à cause des grenades explosives, sans compter les grenades lacrymogènes utilisées, plus de 20 000 en un mois, du jamais vu. Un signe parmi tant d'autres de la fébrilité gouvernementale. Samedi dernier, par exemple, à l'Elysée, les lances à eau étaient prêtes pour repousser les éventuels ennemis, tout comme un hélicoptère prévu afin d'exfiltrer le président Macron si ça chauffait trop. Ils ont tremblé et ils ne sont pas encore rassurés. Cette semaine encore, les barrages filtrants et les blocages se sont poursuivis un peu partout en France. Mercredi à Toulouse, un centre de livraison d'Amazon a été bloqué, ainsi qu'un entrepôt d'Airbus. À Marseille, hier soir, le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer était lui aussi bloqué. La zone de fret du même port l'était également. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un McDonald's en périphérie de Montpellier a en partie cramé et sur les murs calcinés, on pouvait lire « Multinationale et CAC 40, mafia légale ». Hier après-midi, le port de Rouen sur la Seine donc, a été complètement bloqué. On pourrait multiplier les exemples. Les ronds-points continuent d'être tenus, des péages autoroutiers ouverts pendant au moins plusieurs heures. Alors, si tout ça t'enchante et que t'es à Lyon demain, viens place Mazagran à 13h30. On part ensuite toutes et tous ensemble pour rejoindre la manif. Pour plus d'infos, va voir le rendez-vous des queer vénères, celles qui ont signé, sur rébellion.info. Mais en attendant, avec le Canu Info du vendredi, on va écouter ce qui se dit sur le rond-point de Fézin, au sud de Lyon.
Quand on décide quelque chose, on décide tous ensemble. Voilà.
Info du vendredi.
Lundi 10 décembre, zone industrielle de Fézin face à la raffinerie, à la rencontre du barrage des Gilets jaunes.
Radio Canu 102.2.
Une quarantaine de Gilets jaunes bloquent les camions quelques minutes et invitent les conducteurs de ces camions à boire un café dans un petit baraquement installé à côté du rond-point. À l'intérieur de ce baraquement, quelques tables, une machine à café et un réchaud.
Reportage.
Je fais partie aussi du peu. Il y en a un peu marre aussi de cette vie. Non, je suis à la retraite. Normalement à la retraite, mais pas encore rémunérée. Parce que ça, c'est pareil. On bloque, on attend. Pour l'instant, je vis avec 500 euros par mois, alors que j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. Faire la manche à 61 ans, c'est grave.
Moi, je suis ici parce que ça va pas. Moi, j'arrive plus à bouffer. Oh.
Tous les Français,
il est en train de faire de moi un retraité. Qui va devoir mendier et être SDF au mois d'avril.
T'es encore dans la vie active?
J'ai travaillé 4... Non, je suis retraité.
T'es retraité. Ils t'ont piqué toi aussi dans ton portefeuille toi aussi alors?
Mais ils n'arrêtent pas, ça fait voilà. 50 ans
qu'on en parlait tout à l'heure. Encore tous les retraités, ils ont déjà pas beaucoup et on va leur piquer encore dans leur portefeuille.
Local.
Il y en a qui dorment là la nuit, on se relaie, il y a tout le temps du monde.
Ça, c'est hier.
Aujourd'hui, c'est lundi, il n'y a pas trop de monde. Parfois, on est très nombreux, parfois, bon, c'est... Ça dépend. Les week-ends, un peu plus de monde parce qu'il y a des gens qui bossent pas, donc ils viennent nous voir. Ou alors le soir, plus après le boulot. Les gens qui finissent le boulot, ils viennent, donc là, tu as un peu plus de monde. Quoi. Ici, sur ce barrage, sur ce rond-point, il n'y a aucun, entre guillemets, aucun patron. Hein, nous, on n'en veut pas de patron. C'est en. Voilà, on peut, sur certaines choses importantes, on se réunit, on fait une petite réunion, on en parle, mais on décide tous ensemble. C'est pas, il n'y a pas un chef, il n'y a pas de chef.
Tout le monde est plus ou moins entreprenant, selon les tâches, autant que ça va du filtrage des voitures ou à la discussion qu'on a avec les chauffeurs ou proposition de café, on paye le café à tout le monde. Enfin, c'est autant aussi dans la cuisine, le rangement, le machin. Tout le monde entreprend plein de choses. On se met d'accord, bon les gars, ça vous va si je fais ça? Ouais, vas-y, fais. Si ça va pas, bon, ça serait mieux comme ça. Ouais, ok, t'as raison.
Aussi, il y a une chose qui est importante à dire, c'est que beaucoup de gens nous amènent à manger. Et le soir, on va faire des maraudes. On va porter aux gens qui n'ont rien. Il y a des gens qui nous ont amené des couvertures parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sans-abri. Donc on leur apporte à manger, des couvertures et des tentes. Je trouve qu'il y a une chaleur humaine qu'on n'aurait jamais pensé retrouver. Avec toutes nos différences, culture, religion... C'est quand même assez fort.
Et comme la situation mondiale.
Et les problèmes justement parce que tant de personnes ont des problèmes actuellement. Mais on arrive à.
Reportage.
Samedi, on a été bloqué un petit peu à Amazon, donc à Saint-Priest. Ouais. On a été à Saint-Quentin-Falavier.
Ah oui, là.
Saint-Quentin, et on était à peu près entre 600 et 700, c'était énorme. Et on n'a pas réussi à accéder au péage. Les CRS, ils nous attendaient. Hein. C'est tout par Facebook, par les réseaux sociaux, donc ils le savent à l'avance. Les petites actions qu'on fait nous, comme à Charlemagne par exemple. Là, c'est pas passé par les réseaux sociaux. C'est SMS entre nous. Donc on a réussi de notre coup. Et là-bas, on est rentré. Donc dès qu'on a pu rentrer dedans, bon, un petit peu en force, mais sans aucune violence. On est à peu près 200, on a une centaine à 100, 120 à peu près à avoir réussi à envahir donc les lieux. Donc on a été reçu par un sous-fif ou le bras droit de Wauquiez. Et puis on a réussi à obtenir un rendez-vous avec Wauquiez lui-même. Quoi. Ils suppriment les SF soi-disant pour que les investisseurs, les riches puissent refaire marcher un peu l'économie pour les aider à. Et ça, c'est des conneries, c'est pas vrai, pour moi, c'est pas vrai. Quand on voit après comme les multinationales comme Starbucks, je vais répéter, mais les McDo, les Amazon, etc., qui viennent s'implanter en France et qui, eux, ne payent pas d'impôts, ou alors, bon, si, 1 euro symbolique, et à côté de ça, tu as le SMICAR qui, lui, paye ses impôts. Donc ça, c'est des injustices.
Les gens, ils en ont marre de payer pour ceux qui s'engraissent tout le temps les mêmes. Et nous, on nous demande de faire des efforts depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on nous demande faire attention à ci, faire attention à ça. Et on nous donne rien en échange. Au contraire, on nous prend le fruit de notre travail. Je pense qu'il y a une mauvaise distribution. Il y en a qui se servent de ça pour en faire toujours plus, pour en avoir toujours plus dans les poches. Alors qu'on est en train de creuser un fossé entre les gens qui ont pas beaucoup et les gens qui ont énormément.
Faut bien que les gens se mettent dans la tête. On n'est pas si fils.
Et ça, je suis humain.
Après, c'est sûr qu'il y a des débordements, mais c'est obligé. C'est obligé. Ici, on calme tout. On essaye d'être pacifiste, mais au bout d'un moment, ça ne marche pas. Donc, il faut aller au fond. Je ne peux pas dire que je l'accepte, mais ça se comprend. Quand il y a une révolte, parce qu'on ne peut pas manger tous les jours, parce qu'on ne peut pas vivre décemment, c'est obligé, au bout d'un moment, ça pète. Hein. Il y a une colère intérieure qui ressort.
C'est violent, c'est dans des deux sens, attention, hein, force de l'ordre et manifestants. Hein. On sait que voilà, c'est infiltré des deux côtés par des casseurs, par des policiers casseurs, par tout ce que vous voulez, on sait. Mais on voit les choses, on n'est pas débiles. Mais on est en France, quoi. Enfin, je sais pas. C'est censé être une démocratie, le peuple est censé avoir son mot à dire. Bah non, carrément pas. Ils sont obligés de casser, de tout péter pour se faire entendre. C'est pas normal. On en a un en face de nous qui nous méprise, qui nous répond même pas, qui nous donne aucune importance. C'est ça qui est révoltant aussi. Je comprends que les gens ils s'énervent après. Franchement, je peux comprendre.
Mais Pascal Arcy, on lit ce qu'il y a écrit sur votre veste.
Oui.
Il y a écrit « Votez Coluche, c'est lui le casseur ».
C'est pas les Français qui cassent, c'est lui qui est. Si les gens. Le coupable, c'est lui. Tout ça, c'est à cause de qui? C'est à cause du gouvernement, de Macron. Donc, c'est bien beau de dire les casseurs, etc., etc.
Famille Info du vendredi.
Mais à la fin, ils veulent lui demander quoi à Macron, ce gilet jaune?
Déjà qu'il y a trop d'injustice. Parce que quand on voit tout ce que les présidents, anciens présidents, les députés, les sénateurs, tout ce qu'ils gagnent, ils pourraient redistribuer un peu et nous, le peuple, arriver à vivre décemment. Mais même avec un SMIC, déjà, c'est dur. Et on nous a dit, vous n'avez pas fait des économies, mais comment on peut faire des économies avec un SMIC? Avec un SMIC, on calcule tous les jours pour voir si on arrive à la fin du mois. Ça, M. Macron, il faudrait peut-être qu'il vive avec un SMIC, voir ce qu'il peut faire.
Mea culpa, le peuple. Mea culpa, je me tire. Je vous laisse le pays, organisez-vous et faites-moi un truc bien ou un truc comme ça. Je me tire, par contre, je me tire loin, très loin. Tire-toi très très loin. Non, que c'est un enfoiré et que j'aimerais bien qu'il passe un mois au RSA pour qu'il comprenne ce que c'est que vivre la misère, que certains pays, certaines personnes vivent dans ce pays.
Déjà qu'il devienne raisonnable, qu'il nous rende ce qu'il nous a volé, pour commencer.
Ouais.
Ah oui, plus. Après, où il va prendre l'argent, j'en ai rien à foutre. Il n'a qu'à traverser la rue. Le premier de cordée, la corde, elle est coupée juste derrière lui. Alors, hein. Il n'y a que lui qui avance.
Jamais aux questions. Vous parlez toujours du passé et des autres, mais c'est très bien.
Et oui Manu. Alors, on enchaîne sans transition après ce joli dossier gilet jaune sur le résultat d'un procès dont on avait parlé récemment, c'est celui des 3 plus 4, ça fait 7 de Briançon, qui avait manifesté contre des militants d'extrême droite en avril dernier, militants venus chasser les migrants à la frontière franco-italienne. Ils étaient poursuivis pour avoir aidé des exilés à passer la frontière. Le procès, rappelez-vous, avait eu lieu à Gap il y a un mois. Eh bien, les 7 prévenus ont été jugés coupables et condamnés aux peines demandées par le procureur. 5 d'entre eux écopent donc de 6 mois de prison avec sursis, les 2 autres de 12 mois d'emprisonnement, 8 avec sursis et 4 fermes qui sont aménageables. Ils ont l'intention de faire appel. Pour terminer donc sur cette information, Mathieu, l'un des inculpés, adresse ce message à toutes les personnes de bonne volonté. Je le cite donc. On appelle tout le monde à venir en montagne nous filer la main pour que le col de l'Échelle et le col de Mont-Genèvre ne deviennent pas des cimetières. Et peu importe si on a les flics au cul. Alors si vous voulez joindre le geste à la parole, rendez-vous à la maison du gouverneur sans doute, puisque c'est un nouveau squat ouvert il y a peu à la sortie de Briançon. Et on trouvera sans doute là-bas, vous trouverez sans doute là-bas des gens qui vous expliqueront comment être utile pour sauver des vies. Voilà.
Invisible et disponible, libre et irréductible.
Canut, info.
Invisible et disponible, libre et irréductible.
Actu féministe.
Canut info du vendredi. Et oui, actu féministe, une actu féministe qui fait plaisir et qui fout la pêche, puisqu'on va vous parler de la légalisation de l'avortement en Irlande. 7 mois après un référendum historique contre l'interdiction constitutionnelle de l'interruption volontaire de grossesse, le Parlement irlandais a adopté jeudi 13 décembre le projet de loi légalisant l'avortement. Le texte avait commencé à être examiné en octobre. Il prévoit l'autorisation de l'IVG sans condition jusqu'à 12 semaines. Et du coup, le 25 mai, les Irlandais ont approuvé par référendum à plus de 66% quand même la légalisation de l'avortement, ce qui a été un séisme culturel dans ce petit pays de tradition fortement catholique. Donc bravo à ces militantes qui se battent depuis des années, des décennies pour le droit à l'IVG. Toutefois, comme dans de nombreux pays où l'IVG est légale, il faut rester particulièrement vigilante car les délais obligatoires d'attente ainsi que la possibilité pour le personnel médical de refuser de pratiquer les avortements restent encore des bâtons dans les roues pour les femmes qui souhaitent avoir recours à ce droit fondamental.
On fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et dans l'agenda ce soir, eh ben on ne peut que vous conseiller de courir au plus vite, soit à la lutine, soit à la griffe. À la lutine, pourquoi ? Pour la sortie du calendrier Black Screen en soutien à la lutine. Et à la griffe pour une discussion autour de gilets jaunes et féminisme. Et ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que demain, du coup, il y a un appel à rassemblement antifasciste, on en a déjà parlé tout à l'heure. Place Mazagran, du coup, pour aller rejoindre la manif des gilets jaunes. Ça se passera à 13h30. Place Mazagran. Il y a aussi en même temps une rencontre à la griffe sur Vivre ma vie de Elma Goldman. Et ce qu'on peut vous dire et vous rappeler aussi, c'est que lundi soir, de 17h à 19h30, il y a un rassemblement devant l'hôtel de ville pour les contre les violences faites aux travailleuses et travailleurs du sexe.
Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la plus nulle des radios.
Et alors, ACAB, ça veut dire avec n'importe quel chasuble, on augmente le blocage.
Et le Canu Info du vendredi est terminé pour ce soir. Il reste 15 secondes pour vous dire que vous pouvez retrouver l'émission sur le blog des Canu Info ou sur rebellion.info pour la suite de l'agenda. Et bah c'est sur rebellion.info. Et sinon, on vous dit à demain, bien entendu, 13h30, place Mazagran. Et d'ici là, c'est Noise Pollution.